se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de dorade royale filière Auchan Cultivons le Bon est à seulement 6,49€.
À ce prix-là, j'invite mes amis à dîner demain soir. Je vais leur faire ma recette de dorade au four.
J'en connais qui vont se régaler comme des rois.
Vous voulez venir ?
Ah bah oui ! Auchan, avec plaisir. 6,49€, le kilo de dorade royale filière Auchan Cultivons le Bon. Élevé en Grèce, pièce de 300 à 600 grammes. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Si vous êtes tenté par l'essai d'une voiture électrique, peut-être passer du thermique à l'électrique au moment où le président de la République annonce une hausse du bonus 5 000 à 7 000 euros, que les constructeurs se positionnent sur l'électrique, on a peut-être ce qu'il faut, nous, dans les GG sur RMC, puisqu'on va vous offrir un an de leasing pour une voiture électrique, plus de 2 000 euros, afin de rouler pendant un an avec une Renault Zoe, une Volkswagen e-up, une Nissan Leaf, une Dacia Spring ou encore une Hyundai Ioniq, puisque c'est 2 000 euros. Par exemple, avec une Renault Zoe, 169 euros par mois, une Volkswagen e-up, 159 euros par mois, la Dacia Spring, 89 euros par mois. Donc, on vous offre ces 2 000 euros de leasing. Mais il faut reconnaître ce bruit. Ouais, moteur thermique ou moteur électrique ? Vous avez la réponse, envoyez voiture par SMS au 732-16. Voiture par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez, vous êtes tiré au sort. Vous passez dans les grandes gueules tout à l'heure. On vous félicite, on vous offre des places pour le mondial de l'auto. Et en plus, vous êtes retenu pour vendredi. Gagner cette année de leasing qui vous permettra de tester pendant un an une voiture électrique. Voilà, c'est dit, c'est fait, à vous de jouer, à vous de gagner. Vous avez 16 minutes encore devant vous. On passe au à vous de choisir.
RMC, les grandes gueules.
À vous de choisir.
Le à vous de choisir. Tous les jours sur Internet, on vous dépose deux sujets de discussion et vous choisissez celui dont vous voulez parler. L'Assemblée nationale, le 49-3 ou bien l'agression de ce chauffeur VTC par un couple de passagers. Heureusement, il avait une caméra vidéo qui a permis de savoir ce qui s'est passé et l'enquête permettra d'arrêter les suspects, bien sûr, le couple agresseur. Eh bien, c'est de cette agression dont vous avez choisi de parler. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Ça se passe à Lille. Dans un VTC, la scène est donc filmée par ce qu'on appelle les petites dashcams, sont des caméras qui sont positionnées sur le tableau de bord ou sur le rétroviseur. Le couple est derrière le chauffeur, commence à l'agresser pour lui voler le téléphone portable, on ne sait pas trop, et à ce moment-là, il se met à crier. Alors on a flouté le visage des agresseurs qui, par l'arrière, lui font une clé au cou. La fille a essayé de lui attraper le visage, le forcer à s'arrêter. Qu'est-ce qu'ils veulent lui voler ? On ne sait pas. Peut-être le téléphone, sa recette, du liquide, on ne sait pas ce qu'il a sur lui.
En tout cas, il a eu peur cet homme et il a raconté son histoire à la Voix du Nord. En fait, donc il prend en charge à Lille ce couple. Il devait aller à Roubaix et pendant le trajet, les passagers lui demandent de changer de destination pour Tourcoing en cours de route. Sauf qu'il ne voulait pas passer par l'appli. Donc lui, il a trouvé ça bizarre, il voulait l'emmener dans une zone spéciale, c'est ce qu'il dit, sans doute pour me dépouiller, pour voler la voiture, des affaires, peut-être la voiture, etc. Donc c'est pour ça qu'ensuite on entend les cris de la victime, parce qu'il se dit, je vais me faire tuer par ces deux types, et puis il s'arrête, et heureusement les agresseurs se sont enfuis, et la caméra donc d'Anthony, de ce chauffeur, a filmé cette scène, a été vue près de 700 000 fois sur Twitter, elle a permis d'identifier les agresseurs, et donc l'enquête pourrait maintenant aller très très vite. Donc la question est de savoir, est-ce que finalement ces systèmes ne pourraient pas être obligatoires dans les taxis, les VTC, pour protéger les chauffeurs, mais aussi les clients, parce que on a eu aussi des femmes, notamment, qui se sont fait agresser par des chauffeurs VTC, et peut-être que ça pourrait aider, comme ça peut aider les caméras embarquées chez les policiers, à la fois pour protéger les policiers, mais aussi pour protéger la personne qui a interpellé.
Alors, est-ce qu'on met des caméras embarquées dans les VTC, dans les taxis, dans tous les transports publics ? Qu'en dites-vous, Didier, t'es d'accord avec ça ou pas ?
En l'occurrence, là, c'était pas dissuasif, quoi.
C'est jamais dissuasif.
Non, mais c'est pour l'enquête après.
Alors, pour l'enquête après, mais si vraiment ces gens-là étaient armés, par exemple...
Comme la caméra de vidéosurveillance sur
si ces gens-là étaient armés d'un couteau, ça aurait aidé à retrouver les meurtriers de ce pauvre chauffeur VTC. Enfin, on voit qu'il a peur, mais je sais pas quelle est la proportion de gens que ça ne dissuade pas. Et
quand tu sais que t'es filmé, peut-être que ça.
Voilà, c'est là-dessus. En l'occurrence, dans ce cas-là, c'était à mon avis pas dissuasif. Je pense que ça peut être une bonne chose à la fois pour les chauffeurs et à la fois pour les passagers. Enfin, c'est quand même des lieux où il s'est déjà passé plein d'affaires, hein, les VTC. Et je pense que ouais, comme les policiers dans le cadre d'une interpellation, le fait d'avoir des images, ça évite que derrière il y ait des fantasmes et il y ait des choses qui ne soient pas réellement passées.
VTC, c'est comme Uber ?
Oui, c'est ça.
Parce que le système de sécurité des VTC, si je puis dire, de ce que je connais, c'est tout de même que pour obtenir un VTC, tu es obligé de passer par ton application. Et donc, tu es repéré par ton application, puisque c'est ta carte de crédit qui est débitée. Donc, tous les clients qui a, et y compris dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on est emmerdé par un conducteur Uber, on sait qui c'est. Il suffit de le signaler à la boîte et on dit j'ai été importuné par, il a pas, voilà. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il y a des plaintes sur il a pas été poli, il a pas été gentil, le taxi était sale, etc. Donc, en fait, c'est complètement, ça me paraît plus dissuasif sur ces questions-là que les caméras. On sait aujourd'hui que les caméras ne sont pas dissuasives puisque il y a des caméras partout et que ça n'a pas fait diminuer particulièrement le nombre de délits et d'agressions. En revanche, effectivement, c'est très utile dans le cadre des enquêtes pour retrouver les coupables. Donc c'est plutôt une aide à la police pour retrouver les coupables que dissuasif. On a eu la preuve en Angleterre, à Londres, puisque c'était la ville qui servait de modèle, puisque c'était la première ville au monde qui s'est équipée entièrement de caméras. Et en fait, on en a retiré beaucoup parce que ça coûtait incroyablement cher de gérer ces caméras, parce qu'il faut quelqu'un qui analyse les trucs. Et en fait, ça ne servait pas à grand-chose. Donc aujourd'hui, il y a des caméras qui enregistrent, personne derrière pour surveiller. Donc ce n'est plus des caméras de direct. Mais par contre, ça sert à la police d'avoir les vidéos.
Les caméras servent à donner un faux sentiment de sécurité. En tout cas, servaient. Je parle au passé, parce que il y a peut-être 10 ans, on nous disait, voilà, il y a les caméras de sécurité, on se disait, ah bon, là, on est un peu plus en sécurité. Mais compte tenu de, on va le dire, hein, de l'augmentation, je sais que certains nous diront que pas du tout, mais enfin, de l'augmentation de des violences gratuites qui sont commises, en particulier dans les transports en commun, ciblant à peu près toutes sortes de personnes, mais enfin, les femmes sont quand même aussi au premier rang, en tout cas, des dangers, parce que, un homme peut risquer de se faire dépouiller, mais une femme non seulement elle peut se faire dépouiller, mais en plus au passage elle peut se faire violer. Donc je pense que ces caméras aujourd'hui, les gens, ça ne suffit pas à nous rassurer, notamment les femmes dans les transports, que ce soit un VTC ou les transports en commun ou la rue même. Donc le problème, le vrai problème, c'est pas l'outil en soi, le vrai problème c'est de traiter la question de cette hyperviolence, de ces deux personnes que la loi bien gentiment oblige à flouter quand on les diffuse, hein, c'est vrai, c'est regrettable. Enfin là, en plus, ils sont en flagrant délit. Personnellement, je vois pas pourquoi on les floute, mais enfin,
mais
c'est pas grave.
Pas, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas flouté.
Eh ben, je suis ravie que ce soit pas.
Non, parce
que
quand ils sont reconnaissables,
les deux zigomars, ouais, ils sont pris en flagrant délit. Je vois pas pourquoi on floute. Hein, ils doivent être fiers d'eux-mêmes, donc il faut qu'ils assument. Et j'espère qu'on va rapido les trouver. Mais enfin, on peut espérer que notre policier de tout à l'heure nous expliquera que peut-être que cela aussi, on va leur dire. Écoutez, ça va pas bien. Repassez donc. Demain, on verra qui va se passer, qu'on va faire une enquête. Donc moi, je vais vous dire le problème, encore une fois.
Oui, mais les caméras, c'est pas l'incontrôle. Les caméras, ça permet d'élucider l'affaire.
Oui, c'est ça. Comme disait Didier, une fois que tu t'es fait prendre un coup de couteau, ça te fait une belle jambe.
Oui, mais bien sûr.
Le problème, c'est le coup de couteau.
Non, d'accord, mais il faut écouter aussi ce que disent les chauffeurs VTC, ce que disent les représentants des syndicats de taxi. C'est qu'aujourd'hui, tu l'as souligné, on a une société qui est devenue de plus en plus incivique et violente. Oui. Et ne serait-ce que de dire à la personne au moment où elle monte dans
vous
le véhicule,
filmé.
Sachez, monsieur, que la loi nous autorise à vous filmer. J'entendais ce que disait un chauffeur hier. Il dit la personne, elle est descendue, elle était bourrée en fait. Et elle s'est barrée. Donc, si tu veux, pour la personne, c'est dissuasif.
En fait, c'était un ministre qui était bourré. C'est pour ça qu'il est
dit. Centrale d'appel, votre appel sera enregistré. Ben, je suis sûr que c'est quand même certain.
Une centrale d'appel que tu as envie d'engueuler, si on dit ta conversation est enregistrée, tu dis pas la même chose que.
Bien sûr,
bien évidemment. Nous sommes avec Clément qui.
Mais tu peux dire que tu refuses qu'elle soit enregistrée.
Nous sommes avec
toujours ça, tu peux appuyer la touche pour dire que tu refuses.
Clément, qui est chauffeur VTC. Bonjour Clément.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce que très bien, mon cher Claude. Tiens, juste la petite question bonus du jour à chaque fois. Vous savez, vous êtes chauffeur VTC, ça va l'essence en ce moment du côté de l'Hérault là?
Ah, c'est bon, on arrive à s'approvisionner déjà, c'est pas mal. Mais après les prix, bon, mais c'est pas le top.
Ah oui. Donc faut en faire des courses hein, à ce moment-là pour arriver
faut
en
faire des courses, oui.
À rentrer
après,
dans les frais.
J'ai de la chance, je travaille pas sur application, donc mes tarifs sont un peu plus élevés que ce que donnent les applications sur Paris, par exemple. Mais sinon, c'est vrai que
donc vous travaillez pas sur appli, ça veut dire que qu'il y a pas moyen de retrouver le client là pour le coup.
Prenez des risques.
Si, en fait, si on est un VTC sérieux, on prend la réservation et puis on imagine que la personne donne vraiment son vrai nom, parce qu'on doit faire un bon de réservation.
Et elle doit payer avec une carte bleue.
Des fois, je fais des prépaiements, donc j'envoie un lien de paiement. Mais sinon, payer avec la carte bleue.
Vous avez déjà été dans des situations de violence?
Non, j'ai de la chance, j'ai pas eu. J'ai eu des collègues à qui c'est arrivé. Et en fait, moi, j'ai travaillé au tout début quand j'ai commencé sur appli, sur Uber, sur Montpellier, parce que je suis à 7 là. Et il faut savoir que aussi le soir, il y avait toute autre clientèle. Les gens, ils ont bu. Ils sont pas du tout dans l'état d'esprit de la journée. Donc, il peut y avoir des femmes qui nous font des grosses avances, aussi dans ce sens-là. Donc, ça peut nous protéger de dire, ben non, regardez, on n'a rien fait, on n'a même pas parlé avec la personne. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir des chauffeurs qui sont un peu
un peu chauds.
Voilà, on va dire. C'est ce que je voulais dire. Et du coup, ils craquent, et bêtement. Et au final, après, ils se retrouvent dans des situations compliquées quand la personne se réveille le lendemain et se dit, hop.
Donc, vous êtes plutôt pour l'installation des caméras dans la voiture, quoi.
Dans la voiture, que ça peut filmer l'intérieur et voir même la route, parce qu'on peut avoir un accident, puisqu'on fait quand même beaucoup de kilomètres. Et là, à l'assurance, on dit, regardez ce qui s'est passé, et hop, on est tranquille. Donc, autant pour nous, pour les gens, pour tout le monde, que pour les assurances.
Vous avez vu les images, vous l'avez vu cette vidéo?
Non, je l'ai pas vu malheureusement. Ouais. Enfin, malheureusement ou heureusement. Mais j'en ai vu beaucoup des images.
Oui, mais vous voyez, ça c'est tout le paradoxe de notre société. C'est-à-dire qu'à une époque où n'importe qui sort son téléphone portable pour n'importe quoi.
Pour se mettre sur Instagram,
pour filmer, pour insulter quelqu'un. Et puis ensuite, ouais, je suis content, j'ai des likes pour mettre des baffes à un chien en disant ça fait 150 000 vues. Et là, ça passe. Mais on est toujours très lent pour installer des caméras dans les voitures des policiers, faire en sorte que les policiers ils aient la petite caméra sur le gilet, que les VTC se retrouvent aussi avec la caméra sur le tableau de bord. Là, en revanche, ça prend un temps fou, quoi. C'est
surtout
ça qui est dingue.
C'est pas un coût. Enfin, je pense pas que ce soit un coût exorbitant.
Non, ça coûte rien les petites caméras là.
Mais vous pourriez le faire. Pourquoi est-ce que vous ne le feriez pas vous-même de votre propre initiative?
Là, je change de voiture le mois prochain. Je passe en électrique. Donc, il y aura la caméra et c'est sûr. Après, je vais informer le client parce que je crois qu'on est obligé d'informer le client. Et après, il n'y aura pas de souci hein, parce que franchement, au moins, on est tranquille.
Ouais, vous allez le faire, vous. Donc, vous allez installer cette caméra.
Oui, alors, c'est vrai que le monde a changé puisqu'aujourd'hui, non seulement on filme pour montrer quelque chose, mais il y a des gens qui se filment en se montrant eux-mêmes. En train de faire un délit, c'est-à-dire on est au point total du paroxysme, c'est-à-dire on est arrivé à un tel point de
n'importe quoi,
de décomplexation par rapport à tous ces problèmes, non, qu'on se filme en train de faire un délit et qu'on se le met sur, alors qu'on sait que ça va nous procurer des problèmes.
Et puis les mêmes qui filment leur vie au quotidien ensuite ce sont ceux qui vont te dire qu'ils sont contre cette société Big Brother où tu es fliqué, où tu es fiché, où on te filme simplement parce que le chauffeur VTC veut se protéger, quoi. C'est tout.
Dommage d'avoir un carnet de vaccination quand tu fais ça, quoi. Non, mais c'est ça, c'est tout le paradoxe de notre société. Je crois quand même que tout ça, ça a pris de l'ampleur avec l'avènement des réseaux sociaux, où t'existes que par le nombre de likes que t'as fait dans ta journée.
Mondialisation, parce que
tout ça, c'est tout lié. Quand on parle du délitement de la valeur travail, c'est aussi le pendant de tout ça, quoi. Hein. C'est quand t'es quand ta vie, elle se résume au nombre de likes que t'as fait dans la journée.
Merci à Clément d'avoir été avec nous, chauffeur VTC, qui donc de lui-même va installer quand même une caméra, dit-il. C'est plus sûr. Alors justement, des caméras embarquées dans les VTC. Petit sujet de discussion dans le À vous de choisir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, non. On va regarder la consultation. C'est un oui. Oh là, c'est un plébiscite. Oui à 91%. Dans un instant, à mon avis, ça risque d'être plus partagé. Notre GG 7 et match avec cette étude qui est sortie sur la les Français qui sont pour la transparence des salaires dans l'entreprise. Ce sera un GG7 et match, une équipe oui, une équipe non. Venez la départager avec nous au 32-16. En attendant, on va dans l'Isère accueillir Isabelle. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Ma chère Isabelle, c'est vous qui avez gagné l'année de leasing avec une voiture électrique.
Vraiment ?
Mais oui. C'est pour vous. C'est pour vous, Isabelle. Vous avez gagné en fait 2000 euros. Et ces 2000 euros, vous allez pouvoir les utiliser pour prendre un leasing et avoir une voiture électrique, ma chère Isabelle.
Merci beaucoup.
Ah, elle est émue, Isabelle.
Eh bien, je vous en prie, ça me fait très plaisir de vous faire
raconter comment une voiture électrique.
Et alors,
comment ça
Isabelle,
change.
En plus, oui. Vous avez gagné les deux places pour le mondial de l'automobile à Paris. Et vous êtes inscrite donc pour ce tirage au sort. Bravo, félicitations Isabelle.
D'accord, merci beaucoup.
On vous embrasse Isabelle, à bientôt sur RMC, dans les GG, dans les grandes gueules. Allez, dans un instant, on se retrouve pour parler de la transparence des salaires. À tout de suite avec les grandes gueules.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story. Vous avez raté les grandes gueules. Vous avez les podcasts qui sont déjà à votre disposition via l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Vous avez la première heure, vous avez la deuxième heure. Aujourd'hui, nos trois GG, Barbara Lefebvre, enseignante en reconversion, Étienne Liebig, éducateur, Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire. Il est temps de parler argent.
RMC.
GG, 7 et match.
En ce moment, remarquez, on en parle tous les jours d'argent. Tous les Français sont-ils prêts à communiquer leur rémunération ? Parler de son salaire, est-ce que c'est encore un sujet tabou dans notre pays ? On a une enquête qui vient de sortir et qui démontre que près des deux tiers des actifs interrogés seraient à l'aise pour qu'on communique à leurs collègues leur niveau de salaire, à 64%. Ce sont les moins de 24 ans qui sont les plus enclins à ce qu'on pourrait appeler la transparence.
Ils gagnent rien.
La transparence du salaire qui aide, selon ceux qui ont été interrogés, à 80%, quasiment à 79%, à réduire les inégalités salariales. Donc, est-ce qu'il faut aujourd'hui jouer la transparence sur les salaires dans les entreprises ? Oui ou non ? 32-16 pour en parler avec les GG. L'équipe oui, Étienne et Barbara. L'équipe non, Didier et Olivier. La parole à Barbara, 60 secondes chrono. C'est parti.
Cette mesure, elle permet quoi ? Elle permet d'illustrer les écarts de salaire qui peuvent parfois être indécents. Et en l'occurrence, ça va concerner essentiellement les grosses PME et les grands groupes. On va pas se mentir, c'est pas dans les petites PME, je pense qu'au contraire, dans les petites TPE. Je pense qu'au contraire, dans certaines TPE, ce serait intéressant, même que certains salariés, qui parfois le savent d'ailleurs, apprennent que leur patron ne se paye pas. Donc, par exemple, si cette règle était édictée aussi pour les TPE du privé, ça permettrait aux salariés de se rendre compte à quel point parfois certains chefs d'entreprise se sacrifient eux-mêmes. Donc, la question du salaire, elle a jamais été taboue pour les classes populaires, pour les petites classes moyennes déclassées. Pour qui est-ce que révéler son salaire, c'est quelque chose qui est un petit peu honteux? C'est ceux pour qui le salaire, précisément, il est un peu indécent au regard de l'écart de salaire entre les deux. Et c'est pas une question de jalousie, absolument pas. C'est une question de décence entre les écarts de salaire, entre le ratio. Il y a une loi en France, la loi Pacte, qui demande à ce que les grands groupes cotés en bourse publient le ratio d'équité, hein, entre 1 et 20 dans le public, mais il est libre dans le privé. Donc on a aujourd'hui un vrai problème avec des salaires des grands patrons du CAC qui sont presque 250 fois le SMIC par mois.
Ouais, c'est bon, la 60
et
secondes.
On est à 1070 fois le SMIC pour le directeur général de Dassault.
Non. C'est non. Voilà pourquoi c'est
mais nous développerons
la transparence.
Nous au cours du
c'est
débat.
Terminé. On y va. En réponse, Didier Giraud.
Écoute, moi, je trouve que c'est une mauvaise chose par rapport à la démonstration que vient nous faire Barbara. C'est que ce truc-là, il est fait pour démontrer qu'il y a des patrons qui gagnent des salaires indécents. Et dans ce pays de haineux où 30 syndicalistes de la CGT peuvent bloquer le pays pendant des mois, je suis quand même très inquiet de ce que ça va donner le jour où cette mesure-là est effective. Voilà. Je pense qu'il y a dans une entreprise qui vit bien, on peut parler de salaire et il y a quelque chose qui peut s'établir entre le patron et ses salariés. Tu l'as dit, dans certaines TPE, il y a des salariés qui sont mieux payés que leur patron. Et là, c'est pas un sujet tabou. Là, ça c'est. Et que aujourd'hui, en faire une loi, parce que, enfin, quand on commence là, on sait où ça finit. Ça va aller dans le but d'une partie de l'Assemblée nationale à dézinguer de façon systématique tous les gens qui gagnent un peu de pognon dans ce pays. Non, et je rappelle quand même qu'il y a.
C'est pas pareil. Avoir le salaire de monsieur Pouyanné.
Je peux pas couper, merde.
Didier, enfin. C'est normal, c'est 5 minutes. On la coupe pas pendant la minute.
Maintenant,
c'est le débat.
Elle fait 5 minutes à maintenant, chaque
c'est
débat.
Le débat. C'est le débat maintenant.
Il y a quand même une différence à être salarié, avoir un salaire, à donc être salarié et à être patron et donc investir dans son entreprise. Je tiens à rappeler que c'est quand même un peu différent et tu peux pas comparer le salaire de quelqu'un qui a investi dans une entreprise et comparer le salaire de quelqu'un qui vient les mains dans les poches et qui fait un travail.
Qui est souvent une grosse feignasse.
Je préciserais que le salaire de Pouyanné, il est public, donc c'est pas un bon exemple, Barbara Lefebvre.
Non, mais précisément, parce qu'il est public, ça révèle bien que quand les Français...
la jalousie, la rage.
Quand les Français voient et que l'écart est indécent, excuse-moi, c'est intéressant de ne pas vouloir cette transparence, c'est encore une fois pour vouloir mettre la poussière sous le tapis.
Moi, j'irais dans un autre sens. Je pense qu'en France, on est un des seuls pays où on a ce gros souci avec l'argent et avec les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et moi, je pense que justement, cette transparence, ça permettrait un peu de changer ce rapport qu'on a au fric. C'est-à-dire que effectivement, il y a des gens qui gagnent. Alors, je parle pas des super salaires. Il y a des gens qui sont très très bien payés dans des entreprises. Par exemple, il y a des gens qui travaillent, qui ont des commissions sur des. Je connais personnellement des gens qui ont des commissions sur un certain nombre des d'actes
transactions.
Qu'ils font. Pas seulement en actions, mais des commissions qui touchent quand ils réalisent une grosse affaire. Ils sont extraordinairement bien payés. En même temps, ils rapportent beaucoup d'argent à l'entreprise. Et je pense que c'est un accord de départ. On dit tu vas prendre 3% de tout ce que tu vas me rapporter. Le gars, il se fait des sommes colossales, énormes. Mais en même temps, c'est l'accord du départ. Il y a pas de, c'est pas malhonnête. Néanmoins, on a cette difficulté d'admettre. Mais si, justement, je trouve ça intéressant de dire, voilà, je gagne ce fric. Il est à la fois mérité. Mais j'ai le droit de le gagner. Il n'y a pas besoin.
Mais l'intérêt pour qui?
Mais l'intérêt, simplement, de, je pense que ça aura une utilité pour qu'on se dise simplement, oui, il y a des gens qui gagnent plus, il y a des gens qui gagnent moins. Mais que, tu vois, aux États-Unis, c'est accepté.
Dans la loi aux États-Unis.
Oui, mais parce que les États-Unis, ils n'ont pas ce rapport.
Mais justement, on l'aurait plus.
Non,
mais on l'a à cause de ça. On l'a à cause du.
Mais non, c'est notre culture catho.
Mais
si, c'est notre culture catho. Tu sais très bien que l'argent, il faut en avoir, mais il ne faut pas le montrer.
C'est intéressant.
Si on peut en placer une, Étienne a parlé. Je peux simplement, il y a eu justement aux États-Unis, puisqu'on parle des États-Unis, il y a deux chercheurs qui ont montré en fait qu'il y a des effets pervers et que notamment la transparence salariale diminue le pouvoir de négociation avec ton employé, parce que lorsque l'individu va voir son patron pour lui demander une petite hausse, comme tout le monde connaît tous les salaires, mais dire écoutez, non, t'as vu, regarde, tu gagnes comme tes petits camarades, je vais pas t'augmenter. Et le salarié aura beau dire je pense que mon travail,
je travaille plus,
ou en tout cas mon travail est meilleur. Donc cette transparence peut avoir des effets pervers. Ça peut être tiré vers le bas. C'est-à-dire tout le monde, on connaît tous le salaire des gens, mais alors justement, il n'y a plus d'augmentation individuelle, parce que tu comprends. Sinon, le petit camarade ne va pas comprendre. Or, dans beaucoup d'entreprises, il y a des augmentations individuelles, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont plus méritants que d'autres, c'est ça la vie. Des primes au mérite qui n'existent pas dans la fonction publique, parce qu'on n'en veut pas, mais dans toutes les boîtes, ça existe. Et la transparence mettra fin à ça. Donc je pense que ça pas une bonne chose pour le salarié, pour l'employé.
Je connais des boîtes où le nivellement des salaires par le bas, comme tu le décris, ça fait en sorte
ça favorisera la transparence.
Mais ça fait en sorte que dans ces boîtes-là, plutôt des boîtes publiques d'ailleurs, il reste que les mauvais et les bons s'en vont faire carrière ailleurs, quoi.
Barbara.
Pour qu'on leur foute la paix sur leur salaire.
Voilà.
En tout cas, ça a un mérite, par exemple, aux États-Unis, où effectivement, on n'a pas ce rapport à l'argent aux États-Unis. Je pense que, par exemple, les employés de Weight Watcher ou leur patron gagnent 6000 fois plus que ses employés. Je pense que la mentalité américaine consistera à ce que l'employé se dise, il est formidable, il gagne 6000 fois plus que moi. Oh, comme j'aimerais être comme lui. Donc ça, c'est la mentalité américaine. Ok, très bien, c'est leur modèle. C'est aussi le modèle qui se transpose en France. Mais ce qui est intéressant à travers le fait de cette loi, c'est qu'elle permet de voir qu'en 40 ans, les grands patrons américains se sont augmentés de 900%. C'est peut-être intéressant pour les actifs américains de savoir que eux, en 40 ans, ils n'ont pas gagné 900%. Mais les grands patrons, oui. Les Zuckerberg et les Bezos, c'est combien? Non, mais je dis simplement, c'est peut-être intéressant.
On a le droit de trouver ça à la limite de la décence.
Vous, à chaque fois, Didier parle et la façon dont il globalise sur les patrons. Mais moi, je t'ai pas parlé des chefs d'entreprise, des TPE. Non, c'est pour ça que je l'ai dit dès le départ. Moi, je parle des grands groupes dans lesquels les écarts, c'est-à-dire le ratio paye, c'est-à-dire l'écart d'équité, comme on dit dans la, le ratio d'équité, comme on dit dans la loi en France, il est indécent. Alors, oui, je comprends que le mot indécence vous choque.
Non, mais non, vous voulez connaître la transparence pour 50... faire la morale. Donc,
mais c'est pas pour faire la morale, c'est qu'au fur et à mesure, ça permettra de faire changer.
Non, déjà.
Ça permettra de faire changer les choses.
Mais non, Barbara Etienne, vous êtes dans la morale. Vous dites, ah, on veut savoir, parce que comme ça, on pourra dire, ah, c'est pas bien, il touche trop. Je vois pas l'intérêt. Pardon, je vois pas en
je
quoi.
Je pense que le salaire de Monsieur Tavares est indécent. Je pense que le salaire de Monsieur Pouyanné est indécent.
Oui, c'est tu penses, Barbara Lefebvre, et d'autres ne vont pas le penser.
Je pense que beaucoup de Français le pensent.
Olivier, néanmoins, pour retourner.
Pour te retourner, qui nous explique, ça serait bien de savoir vos salaires, parce que
pour te retourner ce que tu as dit.
Nous, on touche rien, mais il y a d'autres qui touchent trop. Donc là, il va falloir
te retourner ce que tu as dit tout à l'heure. Je pense aussi que dans la négociation salariale, notamment le fait de dire. Qu'est-ce qui justifie, par exemple, que vous touchiez, mais même dans des entreprises moyennes, hein, que vous touchiez, je sais pas, 60 000, 80, 100 000 euros par mois, et que moi, qui fournis un gros travail, je reste à 1500. Je pense que ça, effectivement, c'est certainement un jugement d'ordre moral, peut-être d'origine catholique, je n'en sais rien, mais en tout cas, il amène probablement quelque chose du fait qu'effectivement, le sentiment d'injustice sociale est un sentiment
tu peux concéder, Étienne, que c'est souvent du fantasme, parce qu'on ne sait pas, c'est ça.
Ça n'a rien à voir avec.
Il vaudrait mieux le savoir.
Prenons un autre exemple.
Ça n'a rien à voir avec la morale judéo-chrétienne, puisque Platon, Grèce antique, considérait que le ratio, on va dire, entre guillemets, moral.
Il faisait du black,
c'était
Platon.
Oui, c'était entre un.
Il avait moins Platon, un grand économiste bien connu.
Le ratio était de. Oui, parce que les philosophes ont encore le droit de penser sur l'économie, et l'économie n'est pas une science par ailleurs, donc c'est pas un problème. Aussi peu une science que la philosophie. Donc Platon estimait que le ratio, c'était entre 1 et 4. Aujourd'hui, dans la fonction publique en France, depuis la loi de 2012, le ratio, il est de 1 à 20. Donc je pense que ça va. C'est-à-dire que dans la fonction publique, un patron peut gagner jusqu'à 450 000 euros par an. Il a un ratio de 1 à 20. Ça me paraît assez raisonnable. Un patron qui gagne 450 000 euros par an, un grand patron d'une grande entreprise publique, ça peut me paraître à peu près raisonnable.
Qui a dit le contraire.
En revanche,
de toute façon, on connaît son salaire, donc
un ratio entre 1 et 100, ou comme j'ai dit tout à l'heure, un ratio aussi délirant que le PDG de Dassault qui gagne 1070 fois le SMIC.
Mais il va bosser chez Dassault,
excusez-moi, il y a un problème.
Si ça te rend dingue.
Mais
ce que je comprends pas, c'est qu'on connaît ses salaires du public, je suis d'accord, parce que c'est notre argent. Moi, je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs, on le connaît, puisque comme c'est de l'argent public, on sait précisément combien va toucher le patron d'EDF, combien touche le patron de la SNCF, et c'est normal, combien touche un ministre, puisque c'est notre argent.
C'est
et
ça,
c'est le nôtre. Bon. Mais le privé, c'est pas ton problème.
Si.
Et si tu trouves que Dassault, on est
parce
bien payé, va
argent.
Bosser chez Dassault.
Le CICE, non,
mais si tu
c'est ton
que Tavares est trop payé, mais fais ce que fait Tavares.
Les aides de l'État, les 160 milliards d'aides de l'État, aux entreprises et le CICE.
Mais c'est pas pour Tavares, c'est pour les salariés.
Non, c'est la mi-temps.
Le patron de Camailleux, il a remboursé l'argent.
C'est la mi-temps. Est-ce qu'on doit connaître le salaire des collègues? Est-ce qu'on doit aller vers la transparence des salaires? Alors, c'est très partagé. Oui, Étienne Barbara, 51%.
C'est la première fois de ma vie que j'ai plus de...
Non, 49%. Olivier Didier, dans un instant. Erwan, il est un intérimaire dans le commerce, il est dans le Morbihan. Kevin, assureur en Seine-et-Marne. Un oui, un non. A tout de suite avec les GG.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Transparence des salaires dans l'entreprise, oui ou non? Visiblement, les Français sont plutôt pour, si on se fie à cette étude qui est sortie et dont on parle maintenant dans le GG7.
C'est plus
match.
Partagé dans, chez nos auditeurs.
Ouais, avec Erwan, bonjour.
Bonjour, GG.
Alors, équipe oui, équipe non, mon cher Erwan, est-ce que vous êtes pour cette transparence?
Alors moi, je suis pour oui, la transparence. Alors, moi, c'est surtout la grille salariale qui devrait être affichée. Premièrement, déjà, très important, pour connaître, par rapport au premier échelon ou au plus haut échelon. Déjà, que ce soit transparent de ce côté-là. Également sur l'ancienneté, très important, savoir par rapport au nombre d'anciennetés, notre rémunération, comment évoluer par rapport au poste qu'on a dans l'entreprise. J'ai travaillé dans des grosses entreprises internationales, j'ai travaillé dans des PME, et donc ça, c'est important. Par contre... c'est une petite anecdote qui fait que maintenant je demande plus de transparence. Lors d'une réunion avec le PDG, un slide est resté ouvert et on a vu le salaire de notre directeur d'agence qui était avec 4-0, alors que nous, on avait un salaire qui était pas très élevé, alors que c'est nous qui produisions énormément de bénéfices à la société avec notre travail. Parce que lui, on le voyait pratiquement jamais, notre directeur d'agence. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, il y a un souci. Mmh. Et c'est grâce à ça qu'en fait, ensuite, il y a eu des négociations salariales dans l'entreprise l'année d'après.
Bien sûr.
Qui nous a permis, en fait, des personnes qui se sont dit, oh, attendez, moi, je reste jusqu'à des techniciens, des ingénieurs, jusqu'à 8 heures le soir, qui se sont dit, oh, attendez, mon directeur, on le voit pratiquement jamais, et eux, travaillent jusqu'à 20 heures, et ils n'ont pas eu les mêmes rémunérations. Donc, négociations, tout était remis à plat par le PDG. Et voilà, après, ça a été beaucoup plus sérieux.
Et tout ça, c'est fait sans jalousie, sans haine, sans cri, n'est-ce pas ? Voilà, c'est juste un peu de justice.
C'est humain.
Tout à fait, ça peut se passer
très bien, on n'est pas obligé de s'écharper.
Non. Alors, dans la plupart des boîtes, la grille salariale est affichée. Il y a aussi des conventions.
Par la fonction.
Par la fonction. Oui. Et par la fonction.
Par
l'ancienneté. Dans des branches professionnelles, il y a des grilles très précises. Donc il y a déjà, finalement, en quelque sorte, une transparence qui existe.
Mais vous voyez, Erwan, en fait, je pense que. Je pense que Barbara et Étienne, ils se trompent de prisme. Parce que tu dis, c'est par rapport au bas et au très haut. Mmh. Où ça va créer un malaise, c'est dans les strates intermédiaires.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va dire, mais l'autre con, tu vois, parce que tu l'aimes pas, tu le supportes pas, parce qu'il arrive 10 minutes après toi ou qu'il part 10 minutes avant toi, tu vas dire, ouais, regarde, il gagne la même chose que moi ou il gagne 100 balles de plus ou 200 balles de plus parce qu'en plus, il a 3 ans de plus que moi, il est arrivé un an avant moi, etc. Alors moi, j'en fais plus. Et je pense que le malaise, il va se créer dans les couches intermédiaires.
Tu fantasmes un peu sur les gens et sur leur côté jalousie. Moi, je vais te dire un truc. Par exemple,
ça fait longtemps que je suis dans les boîtes.
Par exemple, dans énormément d'entreprises, comme par exemple, prenons La Poste, qui est une énorme entreprise, ou la SNCF, par exemple, ou EDF. Il y a des gens qui ont été embauchés il y a 30 ans, qui ont des statuts qui sont très enviables, et nous sommes tous à peu près d'accord pour le dire. Et puis, il y a des gens qui ont été embauchés récemment et qui sont littéralement exploités. Je pense que ça, par exemple, le fait qu'il y ait la transparence permettrait quand même de retravailler là-dessus parce que c'est d'une injustice totale. Aujourd'hui, on a un écart qui fait que je vais vous dire, ça va très loin parce que ça empêche aujourd'hui ces entreprises de fonctionner.
Moi, je vais décrire
le différentiel était.
Alors, je vais décrire exactement la version.
Merci, Erwan, d'avoir
vécu ça dans une coopérative que j'ai gérée où il y avait un ancien statut très favorable. Et les jeunes qui étaient embauchés sur un nouveau statut qui était beaucoup moins favorable, tu sais à quoi ça a conduit ? Ça a conduit que les jeunes, quand ils ont vu, parce qu'il y avait transparence justement, et ben les jeunes ils sont tous barrés de la boîte en disant, puisque c'est comme ça, nous on va se casser et on va aller bosser ailleurs. Et tu te retrouves qu'avec plus que les médiocres qui font pas leur boulot, finalement nous. Bah, on gagne bien moins que les anciens, mais voilà, pour ce salaire-là, on va pas se calcer le cul.
Si ça avait été transparent avant, ça serait pas passé comme ça.
Ce que vous décrivez, c'est l'URSS. C'est le syndrome de la médiocrité généralisée. Et à un moment donné, tu vas pas à la méritocratie avec ça. Tu tires vers le bas.
Kevin, de Seine-et-Marne.
Pour dire sur ce que dit, ça veut dire que quand tu veux payer quelqu'un au mérite, tu ne pourras plus. Parce que le type, si je te donne un peu plus.
Les autres vont savoir.
Je trouve que tu travailles plus, mais tu comprends, comme tout le monde va le savoir, ton collègue qui est censé faire le même boulot
tire vers le bas.
Cher Olivier,
proposez, mais de façon en général, la tyrannie, la transparence, ça tire vers le
mais
bas.
Mais une augmentation au mérite, il y a des critères. Tu n'es pas, pas augmenté au mérite, au doigt mouillé. Oh, toi, tu as plus de mérite que l'autre. Non, il y a des critères qui permettent aux gens dans une entreprise, il n'y a pas des critères pour quand tu fais tes entretiens là de fin d'année là où ton chef il regarde avec des tableaux Excel ce que t'as ta productivité, ta rentabilité, etc.
Moi j'ai des amis qui
bossent dans la banque, le N+1, N+2 qui regarde avec son tableau Excel ta productivité et il va effectivement te donner à toi une prime qui donnera pas à l'autre.
Où le mérite
mais parce qu'il y a des critères, il y a des critères de mérite. Donc c'est tout.
Alors attendez, parce que on écoute Kevin de Seine-et-Marne. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Kevin. Alors vous êtes plutôt dans l'équipe non, pas de transparence. Pourquoi ?
Alors je suis pas non personnellement, mais effectivement je ferais plus partie de l'équipe non en général. De ce qui vient d'être dit, par contre, les primes au niveau des c'est par rapport à des objectifs. Mais ça c'est encore un autre sujet. En gros, pourquoi est-ce que je suis dans la team ? Enfin, je fais partie de la team non. Prenons donc l'exemple que mais je crois que c'est Alain qui vient de le dire en fait juste avant. On prend une équipe de 10 personnes. Qui font le même travail, ce qui est mon cas, hein, c'est des open space. Les 10 personnes, nous n'avons pas le même salaire. L'écart va être peut-être moindre. Le fait est que ben, les nouveaux sont soumis à quand ils sortent avec leur diplôme pour tout ce qui va être les nouvelles grilles salariales. Oui. Les anciens ont leurs augmentations, etc.
Oui, mais ça, c'est normal.
Il y a un écart forcément dans l'équipe qui
mais
va être
mais ça, c'est normal, ça.
De 200 euros maximum. Ouais. Mais même si cet écart entre les 10 et les 200 euros maximum, l'exemple que je pour moi, c'est Alain qui disait ça tout à l'heure. Ben oui, ça peut être, ben voilà, je suis avec une équipe, on fait tous le même salaire, on fait tous le même travail, mais lui qui vient d'être embauché touche 200 euros plus, ou lui qui a de l'ancienneté. Ouais,
mais il y a une vraie raison.
Mais il y a une raison, et puis cet écart.
Il y a une vraie raison.
Et l'écart, il n'est pas de 1 à 200.
Donc il va falloir, je suis.
Mais l'écart, il n'est pas de 1 à 200 de façon indécente.
Je suis dans votre délire de l'égalité. Non, alors donc très bien. Alors donc, mais moi, je pense que l'ancienneté, c'est une connerie. Moi, je pense qu'il faut mieux payer les gens en mérite plutôt que l'ancienneté.
Non, mais d'accord.
Il y a des gens qui sont très mauvais, mais comme ils sont plus vieux, ils gagnent plus.
Je suis d'accord, c'est pas le cas.
En fait, votre exemple, c'est qu'il va falloir faire la transparence, mais il va falloir expliquer que ça, c'est justifié.
Les points.
Un
point.
Mais
Kevin,
lui touche plus, mais on explique.
Mais on sait, c'est la règle.
Doucement. Kevin,
Kevin,
c'est insupportable, c'est l'injustice.
Étienne, du point.
Quand le ratio d'équité est entre 1 et 1,5 ou 1 et 2, c'est pas la même chose que quand le ratio d'équité, il est entre 1 et 100. Ou 1 et 150.
Mais toi, tu es obnubilé par le salaire de Pape Pouliané.
Alors, attendez, Kevin, je voudrais savoir. 15 exploits. 15.
Il y a plein de petits Pouliané dans les PME.
Je voudrais qu'on revienne vers Kevin, parce que je voudrais savoir qu'est-ce que ça aurait comme incidence, Kevin, là où vous travaillez, par exemple, si ça se faisait.
Chez nous, parce que votre argumentation à tous depuis le début, elle tourne vraiment entre le côté salarié-patron. Là, entre le côté salarié-salarié, c'est vraiment plus cette notion de jalousie. Pour moi, c'est ce que Alain disait tout à l'heure. Oui, il y a une vraie jalousie.
Que ça posera problème.
Une vraie jalousie. Encore une fois, moi, comme je vous dis, moi, je suis pas personnellement un an, c'est plus d'un point de vue général, parce que moi, qu'un nouveau touche plus que moi, alors que j'ai 10 ans d'ancienneté, j'en ai littéralement rien à foutre. Mais par contre, dans l'idée, moi, je peux comprendre que, un de mes autres collègues qui a plus d'ancienneté que moi se dise, bah, merde, le nouveau, il arrive, limite, c'est moi qui le forme et il touche plus que moi.
Oui.
Et pourtant, c'est le même travail.
Ça va conduire à j'en fais moins. Comme je suis moins payé, j'en fais moins.
C'est à ça que ça conduit. Mais c'est l'égalitarisme, mais qui provoque des mais si,
il y a des règles dans une entreprise. Enfin, excusez-moi, mais il y a des règles des entreprises où, effectivement, en fonction du diplôme, en fonction de l'ancienneté, en fonction de la rentabilité, normalement dans une boîte, c'est pas le patron qui décide que celui-là, parce qu'il est grand et beau, il touche tant, et que celui-là, parce qu'il est petit et moche, il touche moins. Il y a des critères qui sont incontestables.
Alors donc,
s'il
y a des critères, il n'y a pas besoin
par contre, il n'y a pas de critères pour qu'un patron s'augmente de 50%.
Ah bah, c'est lui qui décide.
Donc, tout le monde le sait.
Pour un mec qui a la tête de Total.
La transparence existe déjà.
Ils sont tous comme ça, ils font tous la même chose dans leurs assemblées générales.
Puisqu'on le sait, je ne comprends pas ce que tu nous racontes. Puisqu'on le sait déjà, il n'y a pas de transparence.
Alors Kevin, merci. On va aller du côté des Alpes-Maritimes, conclure la discussion avec Bastien, qui est responsable commercial. Bonjour Bastien.
Salut les GG, salut tout le monde.
Alors Kevin était contre la transparence, il dit ça risque de créer un malaise là entre les salariés, puisqu'entre la hiérarchie et la base. Qu'est-ce que vous en dites vous, Bastien? Est-ce que vous êtes équipe oui ou équipe non pour la transparence?
Je sais pas trop. Moi, c'est juste que ce que je dis, c'est que effectivement entre les salariés, moi, je pense que oui, on doit. Moi, ça m'intéresse de connaître le salaire de mes collègues. Mais pourquoi ? C'est simple, parce qu'en fait, chez les commerciaux, par exemple, quand peut-être dans beaucoup de métiers, moi, quand je vois que ce soit un copain, un ami, un collègue, peu importe, un mec qui gagne du pognon et qui gagne du fric, bah moi, ça me donne envie et je me dis putain, mais comment il fait ce mec-là en fait ?
Mais c'est pas Barbara, lui, au contraire, c'est pour pointer du doigt les différences.
En France, on peut pas parler de pognon, on peut pas parler de salaire.
Mais je suis d'accord avec vous.
On peut pas.
On en fera l'usage qu'on veut.
Allez-y, Bastien.
Est-ce que vous avez déjà demandé à vos collègues combien ils gagnaient?
Ouais, mais tout le temps. Et je lui dis, mais comment t'as fait? T'as fait un contrat? Mais bien sûr. Et franchement, je trouve que dans notre génération, alors plutôt les gens qui veulent un peu réussir dans la vie, je parle pas des glandeurs. Généralement, on arrive à parler de pognon. Et j'ai une petite histoire qui est intéressante. Là, je suis arrivé dans une boîte
Donc, il y a seulement 2-3 mois, je demandais un salaire qui était un peu trop important. Et il y a le patron, donc c'est une PME dans le bio, hein. Il y a le patron qui me montre son salaire. Il me dit, franchement, je vais vous montrer mon salaire. Voilà, il gagnait 3 500 €, 4 000 €. Il me dit, voilà, vous me demandez 2006-2007. Il m'a dit, je peux pas, quoi. Je peux pas, c'est pas possible. Donc, j'ai un peu descendu mon salaire. Mais par contre, au niveau des primes, bah, je m'envoie maintenant. Et puis voilà. Et puis,
c'est de la transparence. Et absolument, voilà. Ce qu'on réclame.
Et bah, c'est tout. Voilà. Mais enfin, et je vois pas en quoi ça, c'est du bashing, de faire ça.
Ils sont voilà. Jaloux, les gens.
Oui, mais parce que là, c'est accepté. Et c'est pas pour jalouser.
Non.
C'est pas pour dire,
voilà. Ah, mais
c'est
toi qui imagine que les gens sont
jaloux. Tu imagines que tout le monde est jaloux.
Tu as l'esprit tellement mal.
Tu
nous
dis, c'est pas
possible. Non, mais en fait, on imagine ce que tu nous démontres, Barbara.
Moi, je suis pas jalouse d'être égoïste.
N'imagine rien. Tu nous le démontres.
Ton argument. Depuis tout
pas
à l'heure,
tout.
Il faut pointer du doigt le
vieux patron pour la qui France. Faut,
c'est fini.
Pour la France.
C'est fini. Et c'est Sébastien qui aura conclu avec un exemple concret dans sa boîte, un exemple en faveur de la transparence. Dis, voilà. Alors, oui il ou non, la transparence Louis, on va là. Voir. 52-48, non, vous avez gagné, Olivier et Didier.
On a renversé,
ça, Étienne.
On a renversé la table.
Ça aurait été quand même dommage qu'Étienne gagne son premier match.
Non, non.
J'ai ça pas aurait gagné, été dommage que tu gagnes un match quand même.
On se retrouve du côté de la minorité.
C'est lui le chat noir.
On se retrouve.
Mais je refuse, la pensée, unique, je refuse la pensée unique et la pensée majoritaire. Je resterai toujours minoritaire. Avec mes camarades.
Demain, avec l'avocate Marianne Soubré, le chef d'entreprise Mehdi Ghezard, Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie. Oh. Vous avez les podcasts à votre disposition, bien sûr, pour récupérer les GG, les grandes gueules.